Talmand de Réau, historiette, le cardinal de Richelieu. La Rivière, qui est mort évêque de Langres, disait que le cardinal de Richelieu était sujet à battre les gens, qu'il a plus d'une fois battu le chancelier Séguier et Bullion. Un jour que ce surintendant des finances se refusait de signer une chose qui suffisait pour lui faire faire son procès, il prit les tenailles du feu et lui serrait le cou en lui disant « Petit ladre, je t'étranglerai !» Et l'autre répondit « Étrangler, je n'en ferai rien !» Enfin, il le lâcha, et le lendemain, Bullion, à la persuasion de ses amis qui lui remontrèrent qu'il était perdu, signa tout ce que le cardinal voulut. Le cardinal était avare. Ce n'est pas qu'il ne fît bien de la dépense, mais il aimait le bien. Monsieur de Créqui, ayant été tué d'un coup de canon en Italie, il alla voir ses tableaux, prit tout le meilleur au prix de l'inventaire, et n'en a jamais payé un sol. Il fit pis, car Gillier, intendant de Monsieur de Créqui, lui ayant apporté trois des siens par son ordre, et lui en ayant présenté un qu'il le priait d'accepter, le cardinal dit « Bon, je les veux tous trois, et les dois encore. » Il ne payait guère mieux les demoiselles que les tableaux. Marion Delorme alla deux fois chez lui. À la première visite, il la reçut en habit de satin gris de lin, en broderie d'or et d'argent, botté avec des plumes. Elle a dit que cette barbe en pointe et ses cheveux au-dessus de l'oreille faisaient le plus plaisant effet du monde. Il la baisa du volte. Je vais vous dire qu'une autre fois, elle y entra en homme. On dit que c'était un courrier. Elle-même l'a conté. Après ces deux visites, il lui fit présenter 100 pistoles par Desbournay et son valet de chambre qui avait fait le maquereau. Elle les jeta et se moqua du cardinal. On l'a vu plusieurs fois avec des mouches, mais il n'en mettait pas pour une. Une fois, il voulut débaucher la princesse Marie, aujourd'hui la reine de Pologne. Elle lui avait envoyé demander audience. Il se tint au lit, on la fit entrer toute seule, et le capitaine des gardes fit retirer tout le monde. « Monsieur, lui dit-elle, j'étais venu pour... » Il l'interrompit. « Madame, lui dit-il, je vous promets toute chose. Oh, je ne veux pas savoir ce que c'est, mais, madame, que vous voilà propre. Jamais vous ne fûtes si bien. Pour moi, j'ai toujours eu une indignation particulière à vous servir. » En disant cela, il lui prend la main... Elle la lui voulait mettre dans le lit. Elle la retire et lui veut conter son affaire. Il recommence et lui veut prendre encore la main. Elle se lève et s'en va. Le cardinal aimait les femmes, mais il craignait le roi, qui était médisant. Il était avide de louanges. On m'a assuré que, dans une épître liminaire d'un livre qu'on lui dédiait, il avait rayé héros pour mettre demi-dieu. Une espèce de fou nommé Lapère s'avisa de mettre au devant d'un livre un grand soleil dans le milieu duquel le cardinal était représenté. Il en sortait 40 rayons au bout desquels étaient les noms des 40 académiciens. Monsieur le chancelier, comme le plus qualifié, avait un rayon direct. Je pense que M. Servien, alors secrétaire d'État, avait l'autre. Bautru ensuite et les autres au prorata de leur qualité pour user des termes du surintendant de la vieille ville. Il y mit Charel Bautru, qui n'en était point, au lieu du commissaire Habert. C'était un Auvergnat qui a fait de ridicules traités de chronologie. Un jour qu'il était enfermé avec des marais, que Bautru avait introduit chez lui, il lui demanda « À quoi pensez-vous que je prenne le plus de plaisir ?» À faire le bonheur de la France, lui répondit Desmarets. Point du tout, répliqua-t-il, c'est affaire des Verts. Il eut une jalousie enragée contre le Cid, à cause que ses pièces des cinq auteurs n'avaient pas trop bien réussi. Il ne faisait que des tirades pour des pièces de théâtre. Mais quand il travaillait, il ne donnait audience à personne. D'ailleurs, il ne voulait pas qu'on le reprît. Une fois, l'Estoile, moins complaisant que les autres, lui dit le plus doucement qu'il put qu'il y avait quelque chose à refaire à un vers. Ce vers n'avait seulement que trois syllabes de plus qu'il ne lui fallait. Là, là, monsieur de l'Estoile, lui dit-il, comme s'il eût été question d'un édit, nous le ferons bien passer. Il avait assez méchant goût. On lui a vu se faire rejouer plus de trois fois une ridicule pièce en prose que la serre avait faite. C'est Thomas Morus. En un endroit, Anne de Boulen disait au roi Henri VIII, qui lui offrait une promesse de mariage, « Sire, des promesses de mariage, les petites filles s'en moquent. » En un autre, elle moralisait sur la fragilité des choses humaines et disait au roi que le trône des rois était un trône de paille. C'est donc, disait le roi, de paille de diamant. On appelle une paille certaines marques dans les diamants, qui est un défaut. Il fit une fois un dessin de pièce de théâtre avec toutes les pensées. Il le donna à Boisrobert en présence de Madame d'Aiguillon, qui suivit Boisrobert quand il sortit pour dire qu'il trouva le moyen d'empêcher que cela ne parût, car il n'y avait rien de plus ridicule. Boisrobert, quelques jours après, voulut prendre ses billets pour cela. Le cardinal, qui s'en aperçut, dit: Apportez une chaise à Dubois, il veut prêcher. Monsieur Chapelain, après, fit des remarques sur ce dessin par l'ordre du cardinal. Elles étaient les plus douces qu'il se pouvait. L'éminentissime déchira la pièce, puis il fit recoller les déchirures, le tout dans son lit la nuit, et enfin conclut à n'en plus parler. Pour l'ordinaire, il traitait les gens de lettres fort civilement. Il ne voulut jamais se couvrir parce que Gombault voulut demeurer nu-tête. Et mettant son chapeau sur la table, il dit: Nous nous incommoderons l'un et l'autre. Cependant, regardez si cela s'accorde, il s'assit et le laissa lire une comédie tout debout, sans considérer que la bougie qui était sur la table, car c'était la nuit, était plus basse que lui. Cela s'appelle obligé et désobligé en même temps. Cela ne lui arrivait guère. 20 fois, il a fait couvrir et asseoir Desmarets dans un fauteuil comme lui, et il voulut qu'il ne l'appelât que monsieur. On l'a pourtant loué de savoir obliger de bonne grâce quand il le voulait. Il avait, à ce que dit la Ménardière, dessein de faire à Paris un grand collège avec 100 000 livres de rente, où il prétendait attirer les plus grands hommes du siècle. Là, il eût eu un logement pour l'Académie, qui eût été la directrice de ce collège. C'était à Narbonne, un peu devant sa mort, que la Ménardière dit qu'il le fit venir 7 ou 8 fois pour lui en parler. Il avait cela si fort dans la tête que, malgré son mal et toutes les affaires qu'il avait alors sur les épaules, il y pensait fort souvent. Il avait, ajoute la Ménardière, déjà acheté quelques collèges. Il laissa une assez belle bibliothèque, mais l'avarice de Madame d'Aiguillon et le peu de soins qu'elle en a eu la laissa fort dépérir. Feu Tourville, grand maréchal des logis, quand le roi l'a logé au palais, voulut à toute force en avoir la clé. Après, on y trouva pour 7 à 8 000 livres de livres à lire. Ce fat de la serre, il loge présentement et il fait je ne sais quel taudis. Le cardinal faisait écrire la nuit quand il se réveillait. Pour cela, on lui donna un pauvre petit garçon de Nogent-le-Rotrou nommé Chéret. Ce garçon plut au cardinal parce qu'il était secret et assidu. Il arriva quelques années après qu'un certain homme ayant été mis à la Bastille, l'affema, qui fut commis pour l'interroger, trouva dans ses papiers 4 lettres de Chéret dans l'une desquelles il disait à cet homme « Je ne puis vous aller trouver, car nous vivons ici dans la plus étrange servitude du monde, et nous avons affaire au plus grand tyran qui fut jamais. » L'affema apporta ses lettres au cardinal, qui aussitôt fait appeler Chéret. « Chéret, lui dit-il, qu'aviez-vous quand vous êtes venu à bon service ?»« Rien, monseigneur. » »« Écrivez cela. » Qu'avez-vous maintenant ? Monseigneur, répondit le pauvre garçon bien étonné, il faut que j'y pense un peu. Y avez-vous pensé ? Dit le cardinal après quelque temps. Oui, monseigneur, j'ai tant dans cela, tant dans telle chose, etc. Écrivez. Quand cela fut écrit, est-ce tout ? « Oui, monseigneur. »« Vous oubliez, ajouta le cardinal, une partie de 50 000 livres. »« Monseigneur, je n'ai pas touché l'argent. »« Je vous le ferai toucher. C'est moi qui vous ai fait faire cette affaire. » Somme toute, il se trouva 6 000 écus de bien. Alors il montra ses lettres. « Tenez, n'est-ce pas là votre écriture, lisez. » Allez, vous êtes un coquin, que je ne vous vois jamais. » Madame d'Aiguillon et le grand maître le firent reprendre au cardinal. Peut-être savait-il des choses qu'il craignait qu'il divulguât. Ce n'est pas que le cardinal ne fût terriblement redouté. Pour moi, je trouve que l'éminentissime, cette fois-là, fut tout à fait clément. Ce Chéret, maître des comptes. Il avait placé un de ses frères chez le grand maître, qui, je crois, fait aussi quelque chose. Le cardinal donna à madame la duchesse d'Enghien une petite chambre où il y avait 6 poupées, une femme en couche, une nourrice quasi au naturel, un enfant, une garde, une sage-femme et la grand-maman. Mademoiselle de Rambouillet, mademoiselle de Boulleville et autres jouaient avec elle, déshabillaient et couchaient tous les jours les poupées. On les rhabillait le lendemain, on les faisait manger, on leur faisait prendre médecine. Un jour, elles voulurent les faire baigner et on eut bien de la peine à les en empêcher. « Ah !» disait la duchesse, « que sa Maigrat est un bon garçon, qu'il joue bien avec les poupées !» Il est temps de parler de Monsieur le Grand. Le cardinal, qui ne s'était pas bien trouvé de Lafayette, et qui voyait bien qu'il fallait quelque amusement au roi, jeta les yeux sur Saint-Mars, second fils du feu maréchal d'Effia. Il avait remarqué que le roi avait déjà un peu d'inclination pour ce jeune seigneur, qui était beau et bien fait, et il crut qu'étant le fils d'un homme qui était sa créature, il serait plus soumis à ses volontés qu'un autre. Saint-Mars fut 1 an et demi à s'en défendre. Il aimait ses plaisirs et connaissait assez bien le roi. Enfin, son destin l'y entraîna. Le roi n'a jamais aimé personne si chaudement. Il l'appelait « cher ami ». Au siège d'Arras, quand Saint-Mars y fut avec le maréchal de l'hôpital mener le convoi, il fallait que M. le Grand écrivît 2 fois le jour au roi. Et le bon sire se mit à pleurer une fois qu'il tarda trop à lui faire savoir de ses nouvelles. Le cardinal voulait qu'il lui dise jusqu'aux bagatelles. Lui, il ne voulait dire que ce qui importait au cardinal. Leur mésintelligence commença à éclater quand M. Legrand prétendit entrer au conseil. Le cardinal ne trouva pas bon non plus que Saint-Marc voulût être grand écuyer au lieu de premier écuyer de la petite écurie. Le roi disait tout en sa présence. Il savait toutes les affaires. Le cardinal en représenta tous les inconvénients au roi et que c'était un trop jeune homme. Cela outra le grand écuyer qui fit maltraiter son espion. Lachenais, premier valet de chambre, par le roi qui le chassa honteusement. Et le roi, en maltraitant Lachenais, disait aux assistants: il n'est pas gentil, homme, au moins. Il appela coquin et le menaça de coups de bâton. Saint-Mars s'en lava comme il put auprès du cardinal, en lui disant que cet homme, le mettant mal avec le roi, l'eût empêché de rendre à son éminence ce qu'il lui devait. La Meilleraie, son beau-frère, lui proposa à Ruel, où il fit son apologie, de donner un écrit de sa main signé, par lequel il s'obligerait de dire au cardinal tout ce que le roi lui dirait, et il répondit que ce serait signer sa condamnation. C'est apparemment Fontrailles qui irrita le plus Saint-Marc contre l'éminentissime, car il était engagé contre le cardinal. Et voici pourquoi. Fontrailles, Ravigny et autres étaient à Ruel dans l'antichambre du cardinal. On vint dire que je ne sais quel ambassadeur venait. Le cardinal sort au-devant de lui dans l'antichambre. Ayant trouvé Fontrailles, il lui dit, le raillant un peu fortement: « Rangez-vous, rangez-vous, monsieur de Fontrailles. Ne vous montrez point. Cet ambassadeur n'aime pas les monstres. » Fontrailles grinça des dents et dit en lui-même: « Machelme, tu me viens de mettre le poignard dans le sang. Mais je te l'y mettrai à mon tour, où je le pourrai. » Après, le cardinal le fit entrer et goguenarda avec lui pour accommoder ce qu'il avait dit. Mais l'autre ne lui a jamais pardonné. Cette parole-là a peut-être fait faire la grande conjuration qui pense à ruiner le cardinal. Pour en revenir à M. Legrand, l'amiral de Brezé ne faisait que d'arriver. C'était vers l'avant 1641, quand le cardinal, qui voulait partir à la fin de janvier pour Perpignan, lui dit qu'il fallait se préparer pour armer les vaisseaux à Brest et puis passer le détroit pour s'en aller planter devant Barcelone afin d'empêcher le secours de Perpignan. Quelques jours après, Brezé entra dans la chambre du roi. Pensez que l'huissier ne le laissait pas gratter deux fois. Le roi et M. Legrand parlaient dans la ruelle. Brezé entend, sans être vu, que M. Legrand disait le diable du cardinal. Il se retire, il consulte en lui-même. Il n'avait pas encore 22 ans. Il avait peur de n'être pas cru. Il se résout de suivre le roi à la chasse le plus souvent qu'il pourrait, et s'il trouvait M. Legrand à l'écart, de lui faire mettre l'épée à la main. Une fois, il le trouva assez à propos, mais voyant venir un chien, il crut qu'il y aurait des gens après. Le lendemain, le cardinal lui ordonna de partir le jour suivant. Il fut 2 jours caché, faisant travailler à son équipage. L'éminentissime le sut, l'envoya quérir et le malmena. Enfin, le jeune homme, ne sachant plus que faire, va trouver M. Denoyer et lui dit ce qu'il avait eu dessein de faire. M. Denoyer lui dit: Monsieur, ne partez point encore demain. Le cardinal, averti de tout, le mande, le remercie de son zèle, et le fait partir après lui avoir dit qu'il y mettrait ordre. Dans le voyage, les choses s'aigrirent. Le cardinal voulait qu'on chassât M. le Grand. Le roi ne le voulait pas, à cause que le cardinal le voulait. Non, comme vous allez voir qu'il aima encore M. le Grand. L'éminentissime se retire à Narbonne sous prétexte de son mal, et laisse Faber, capitaine aux gardes, mais qui était bien dans l'esprit du roi, et à qui le roi avait même dit un jour qu'il se voulait servir de lui pour se défaire du cardinal. On l'avait choisi comme un homme de cœur et un homme de sens. Monsieur de Toux sonda un jour Faber pour lui faire prendre le parti de Monsieur le Grand. Faber lui fit sentir qu'il en savait bien des choses et le pria de ne lui rien dire qu'il fût obligé de découvrir. « Mais vous n'avez, lui dit l'autre, aucune récompense. Vous avez acheté votre compagnie aux gardes. »« Et vous, répondit Faber, n'avez-vous point de honte d'être comme le suivant d'un jeune homme qui ne fait que sortir de page ? Vous êtes dans un plus mauvais pas que vous ne le pensez. » Or, voici comment on découvrit que le roi n'aimait plus M. le Grand. Un jour, en présence du roi, on vint à parler de fortifications et de sièges. M. le Grand disputa longtemps contre Faber, qui en savait un peu plus que lui. Le feu roi lui dit « Monsieur le Grand, vous avez tort, vous qui n'avez jamais rien vu, de vouloir l'emporter contre un homme d'expérience. » Et ensuite dit assez de choses à M. le Grand sur sa présomption, puis s'assit. M. le Grand lui alla dire sottement « Votre Majesté, ce serait bien passé de me dire tout ce qu'elle m'a dit. » Alors le roi s'emporta tout à fait. M. le Grand sort, et en s'en allant, il dit tout bas à Faber « Je vous remercie, M. Faber. » comme l'accusant de tout cela. Le roi voulait savoir ce que c'était. Faber ne le lui voulut jamais dire. « Il nous menace peut-être, dit le roi. Sire, on ne fait point de menace en votre présence, et d'ailleurs on ne le souffrirait pas. Il faut vous dire tout, monsieur Faber, il y a 6 mois que je vomis. Ce sont les propres termes du roi. Mais, pour faire croire le contraire, et qu'on pensât qu'il m'entretenait encore après que tout le monde était retiré, continua le roi. Il demeurait 1 heure et demie dans la garde-robe à lire l'Arioste. Les 2 premiers valets de garde-robe étaient à sa dévotion. Il n'y a point d'homme plus perdu de vice ni si peu complaisant. C'est le plus grand ingrat du monde. Il m'a fait attendre quelquefois des heures entières dans mon carrosse tandis qu'il crapuyait. Un royaume ne suffirait pas à ses dépenses. Il a, à l'heure que je vous parle, jusqu'à 300 paires de bottes. La vérité est que M. le Grand était las de la ridicule vie que le roi menait, et peut-être encore plus de ses caresses. Faber donna avis de tout cela au cardinal. Monsieur de Chavigny, qui l'envoya trouver Faber, ne pouvait croire ce qu'il entendait. Cela donna courage au cardinal qui, voyant qu'après cela Monsieur le Grand faisait toujours bonne mine, conjectura qu'il y avait quelque grande cabale qui le soutenait. C'était ce traité d'Espagne. Avant que de dire mes conjectures sur le moyen par lequel il l'eut, je dirais quelle était la résolution du cardinal. Un peu devant sa retraite de Narbonne, sous prétexte de sa maladie, le cardinal dictait un manifeste dont les cahiers ont été brûlés. Il parlait de se retirer en Provence à cause du comte d'Alais. Il espérait que ses amis l'y viendraient joindre. Il partit effectivement, après s'être fait dire par les médecins que l'air de la mer lui était si contraire qu'il ne guérirait point s'il ne s'en éloignait pas davantage. Et au lieu d'aller par terre pour plus de grande sûreté, il se mit sur le lac pour aller à Tarascon, disant que le branle de la litière lui faisait mal. Comme il était près de passer le Rhône, on dit qu'un courrier qui ne l'avait point trouvé à Narbonne arriva avec un paquet du maréchal de Brézé, vice-roi de Catalogne, qui en quatre lignes lui mandait qu'une barque ayant échoué à la côte, on y avait trouvé le traité de M. le Grand, ou plutôt le traité de M. d'Orléans avec l'Espagne, et qu'il le lui envoyait. Voilà le bruit qu'on fit courir, mais ce n'est pas la vérité. Le cardinal, à ce qu'a dit Charpentier, son premier secrétaire, qui peut avoir été trompé comme un autre et qui a conté l'aventure de la barque, le cardinal, fort surpris, commanda que tout le monde se retirât, excepté Charpentier. « Faites-moi apporter un bouillon, je suis tout troublé. » Charpentier le va prendre à la porte de la chambre, qu'on ferme après au verrou. Alors le cardinal, levant les mains au ciel, dit « Oh Dieu, il faut que tu aies bien du soin de ce royaume et de ma personne. Lisez cela, dit-il à Charpentier, et faites-en des copies. » Aussitôt, il envoie un express à M. de Chavigny, avec ordre de le venir trouver quelque part qu'il fût. Chavigny le vint trouver à Tarascon, car il jugea à propos de passer le Rhône. Chavigny, chargé d'une copie du traité, va trouver le roi. Le cardinal l'avait bien instruit. Le roi vous dira que c'est une fausseté, mais proposez-lui d'arrêter M. le Grand, et qu'après il sera bien aisé de le délivrer si la chose est fausse, mais que si une fois l'ennemi entré en Champagne, il ne sera pas si aisé d'y remédier. Le roi n'y manqua pas. Il se mit en une colère horrible contre M. de Noyers et M. de Chavigny, et dit que c'était une méchanceté du cardinal qui voulait perdre M. le Grand. Ils eurent bien de la peine à le ramener, enfin. Pourtant, il fit arrêter M. le Grand, et puis alla à Tarascon s'éclaircir de tout avec le cardinal. À Lyon, M. le chancelier dit tant à M. le Grand que le roi l'aimait trop pour le perdre, que cela n'irait qu'à quelque temps de prison et que sa majesté aurait égard à sa jeunesse, que le pauvre M. le Grand en crut quelque chose et confessa tout. Et après, de peur de la question qu'on lui présenta et qu'on lui eût donnée jusqu'à la mort, il persista. Il crut toujours que le roi ne suffirait jamais qu'on le fît mourir, mais que seulement on l'éloignerait, et qu'étant si jeune, il aurait le loisir de laisser mourir le cardinal, et qu'après, il reviendrait à la cour. D'abord, il confessa tout en secret à M. le chancelier seul. Quand le roi passa, il dit sans puérilité au chancelier, entre autres qu'il n'avait plus jamais accoutumé ce méchant garçon à dire son pater tous les sourds. Monsieur le chancelier dit au cardinal, « Oh, pour monsieur le grand, cela va assez bien, mais pour l'autre, je ne sais pas comment nous ferons. » Monsieur le grand, après divers interrogatoires, fut conduit au palais de Lyon. On le fit venir devant les commissaires. Car pas un, non pas même monsieur de Thou, qui devait savoir cela, ne déclina, et cela dans l'opinion qu'il avait que le roi ne demandait d'autre satisfaction, sinon qu'il avoua publiquement son crime. Il fit, d'une manière tout à fait débarrassée et en termes dignes d'un cavalier, toute l'histoire de sa faveur. Ce fut là qu'il avoua que M. de Thou savait le traité, mais qu'il en avait toujours détourné. On le confronta après à M. de Thou, qui ne fit que lever les épaules comme en le plaignant, mais lui reprocha point de l'avoir trahi. Monsieur de Thou allégua la loi, conquis sur laquelle a été faite l'ordonnance de Louis XI, qui n'a jamais eu lieu, mais il expliqua mal cette loi, prenant toujours conquis pour complice. Il y a bien de la différence. Monsieur de Miroménil eut le courage d'ouvrir la vie de l'absolution pour lui. Le cardinal, s'il eût vécu plus longtemps, ne lui en eût pas voulu de bien. Un exemple qu'on allégua d'un homme de qualité nommé, que le premier président de Thou fit mourir pour la même chose, nuisit fort à son petit-fils. Monsieur le Grand croyait si peu mourir que, comme on le voulut faire manger pour lui prononcer après sa sentence, il dit « Me ne veux point manger. On m'a ordonné des pilules, j'ai besoin de me purger. Il faut que je les aille prendre. » Il mangea peu. Après, on leur prononça leur sentence. Une chose si dure et aussi peu attendue ne fit cependant témoigner aucune surprise à Monsieur le Grand. Il fut ferme et le combat qu'il souffrait en lui-même ne parut point au dehors. Quoiqu'on eût résolu de ne lui point donner la question comme portait la sentence, on ne laissa pas de la lui présenter. Cela le toucha, mais ne lui fit rien faire qui le démentit, et il défaisait déjà son pourpoint quand on lui fit lever la main pour dire la vérité. Il persévéra et dit qu'il n'avait plus rien à dire. Il mourut avec une grandeur de courage étonnante, ne s'amusa point à haranguer, salua seulement ce qu'il reconnut aux fenêtres, se dépêcha, et quand le bourreau lui voulut couper les cheveux, il lui ôta les ciseaux et les donna au frère du jésuite. Il voulait qu'on ne lui en coupât qu'un peu par derrière. Il retira le reste en devant. Il ne voulut point qu'on le bandât. Il avait les yeux ouverts quand on le frappa, et dès le billet aussi ferme qu'on eut de la peine à en retirer ses bras. On lui coupa la tête du premier coup. Le cardinal, qui avait traîné M. de Thou après lui sur le Rhône, eut bien de la peine à gagner la Loire. On le portait dans une machine et, pour ne le pas incommoder, on rompait les murailles des maisons où il logeait. Et si c'était pour haut, on faisait une rampe dès la cour où il entrait par une fenêtre dont on avait ôté la croisée. 24 hommes le portaient en se relayant. Une fois qu'il eut attrapé la Loire, on n'avait que la peine de le porter du bateau à son logis. Madame d'Aiguillon le suivait dans un bateau à part. Bien d'autres gens firent de même. C'était comme une petite flotte. Deux compagnies de cavalerie, l'une de ça, l'autre de là, la rivière, l'escortaient. On eut soin de faire des routes pour réunir les eaux qui étaient basses, et pour le canal de Briard, qui était presque tari, on y lâchait les écluses. Monsieur d'Arguin eut ce bel emploi, et il passa au bain de Bourbon-Lancy, mais ce remède ne lui servit guère. On trouva dans Pline que deux consuls romains étaient morts de fièvre qu'ils prirent comme lui dans la Gaule narbonnaise. Le cardinal était sujet aux hémorroïdes et Juif l'avait une fois charcuté à bon escient. Le roi ne fut voir le cardinal qu'un peu avant qu'il mourût, et l'ayant trouvé fort mal, en sortit fort gai. Le curé de Saint-Eustache vint pour l'assister. On assure qu'il lui dit qu'il n'avait d'ennemis que ceux de l'État, et que Madame d'Aiguillon, étant entrée tout échauffée, et lui ayant dit « Monsieur, vous ne mourrez point, Une sainte fille, une brave carmélite, en a eu une révélation. Allez, allez, lui dit-il, ma nièce, il faut se moquer de tout cela. Il faut croire qu'à l'évangile. On a dit qu'il était mort fort constant. Mais Boisrobert dit que les deux dernières années de sa vie, le cardinal était devenu tout scrupuleux et ne voulait pas souffrir le moindre mot à double entente. Il ajoute que le curé de Saint-Eustache, à qui il en avait parlé, ne lui avait point dit que le cardinal fût mort si constamment qu'on l'avait chanté. Monsieur de Chartres a dit plusieurs fois qu'il ne connaissait pas le moindre péché à monsieur le cardinal. Par ma foi, qui croira cela pourra bien croire autre chose.